Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Mr. Bad Guy, et c'est une nouvelle heure de soundtrack qui s'ouvre ici, une nouvelle heure que nous allons consacrer à Freddie Mercury, puisque c'est le 40e anniversaire de son premier album solo, un album qui était donc sorti en 1985, et on va recevoir ici un spécialiste, parce que, enfin, il est là souvent, mais c'est aussi un spécialiste, en plus de Bowie, c'est aussi un spécialiste de Freddie Mercury et de Queen, puisqu'il en a écrit déjà aussi quelques ouvrages. C'est Laurent Riepy, bonjour Laurent.
Bonjour, oui,
Laurent, le tout premier album solo officiel de Freddie Mercury qu'on va évoquer aujourd'hui, un album qui sort le 29 avril 85 au Royaume-Uni, après 2 années de travail par intermittence au Musicland Studio de Munich. Hein, c'est le studio où Mercury aime bien passer du temps, il aime bien la ville de Munich, il s'y sent bien. Et ce disque était pour Freddie une véritable nécessité, celle de s'exprimer en dehors du cadre du groupe Queen. Et aussi, selon certaines sources, c'était une façon aussi de renflouer ses comptes personnels.
Pourquoi pas?
Ça peut servir évidemment. Aussi. Et donc, Jim Beach, qui est le manager du groupe et qui s'occupe de ce projet aussi, va négocier alors pour lui un contrat solo avec CBS Records, qui, à l'époque, nage complètement dans l'argent après le succès de Thriller de Michael Jackson. Donc, un contrat assez juteux.
Ouais, il a de la chance. Bon, ce nouveau contrat en solo va même créer quelques tensions dans Queen. Et ça, je pense qu'on le voit d'ailleurs dans le film.
Mais oui, en fait, l'avance perçue par Freddie Mercury est nettement supérieure à ce que Queen touchait auparavant pour les albums précédents. Donc, ça fait
tiquer
tout le monde.
Autres.
Voilà.
Ouais.
Et donc, ça ne passe pas inaperçu. Cela dit, Mr. Bad Guy est aussi, et il faut le préciser, une œuvre complètement sincère. À Mercury, il met tout son cœur, toute son énergie et son perfectionnisme légendaire. Parce que les sessions vont commencer en 1983 et s'étendent jusqu'au début de l'année 85. Donc c'est un projet de longue haleine. Mais Freddie voulait vraiment que tout, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais que tout soit absolument parfait.
Et donc, vu qu'il était à Munich, ça a été enregistré à Munich, dans une ambiance qui était plutôt détendue, je pense.
Oui, presque familiale, notamment en compagnie de Reinhold Mack, le producteur, qui est un grand ami à Freddie Mercury. Et Reinhold Mack m'avait d'ailleurs accordé une assez longue interview il y a 5 ans, et il m'a dressé un petit peu le cadre familial et serein dans lequel se sont déroulées ces sessions d'enregistrement de ce premier album solo de Mercury. Alors, c'est une réalité qui contraste assez avec ce qui est décrit d'ailleurs dans le film, on vient d'en parler, Bohemian Rhapsody, qui imagine ces sessions comme un véritable moment de débauche. C'est pas vraiment ça. En tout cas, c'est ce que nous raconte Reinhold Mack.
Je
pense que c'est un très bon album. On a été très contents du résultat. Freddie a envie de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec le groupe Queen, de travailler sur des titres qu'il avait élaborés, construits pour cet autre projet. Cela faisait alors 2 ans qu'il vivait à Munich. Il était dans un environnement familial. Il jouait au tennis de table avec mes enfants. Je pense qu'il vivait alors la meilleure expérience familiale qu'il n'avait jamais connue.
Family experience he had, and so he was exceptionally relaxed.
Il était exceptionnellement relax, il passait du bon temps. Mais dans le coin de ma tête, je ne peux m'arrêter de penser que pas mal de personnes au sein du management n'ont pas trop aidé à la promotion de l'album.
In the management area, didn't really help to promote it.
Ils étaient effrayés que si l'album marchait mieux que Queen, ils allaient perdre Freddie. Du coup, l'album n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait.
You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all
Love Me Like There's No Tomorrow, donc c'est encore un autre titre ici tiré de cet album Mr. Bad Guy dont nous fêtons le 40e anniversaire. Alors ce titre de Mr. Bad Guy, l'album ne va le prendre qu'à la toute fin de la préparation de ce projet.
Exactement, en fait il devait s'appeler Made in Heaven, mais ce titre finalement sera utilisé bien plus tard pour le dernier album studio du groupe Queen en 1995. Et ouais. Mr. Bad Guy donc va sortir sur ce nouveau titre et va atteindre donc la 6e place des charts au Royaume-Uni, mais il s'effondre rapidement. Donc c'est un succès, éphémère. On va dire, éphémère. Ouais. Aux États-Unis, l'accueil est encore plus timide. Accrochez-vous, 151e place. Et ben, évidemment, il va sortir assez rapidement des classements. Donc les États-Unis ne sont plus vraiment la terre favorite de Freddie Mercury à l'époque.
Ouais, on est loin des craintes que pouvait avoir l'équipe de management.
Alors
on dit que Freddie Mercury aurait peut-être été un petit peu saboté sur ce projet solo.
Mais oui, apparemment, le manager et les autres membres du groupe n'appréciaient pas donc cet écart du groupe. Hein, on en a parlé. Et donc le management aurait volontairement fait très peu de promo autour de cet album. Et c'est vrai, quand on regarde un petit peu dans les archives, il y a très peu d'interviews, il y a très peu d'affiches, etc., d'outils promotionnels par rapport à une sortie classique d'un album de Queen. Donc, on ne saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, mais plusieurs amis et proches de Freddie m'en ont parlé et partagent cet avis de sabotage, quelque part, interne de cet album solo.
Ouais. Un succès modéré. Et pourtant, on y retrouve des titres marquants, et notamment « Living on my own ».
Ben oui, un titre phare qui parle de solitude, de liberté, d'excès également. En fait, c'est parfaitement Freddie. Hein.
Tout à fait.
C'est un morceau qui lui est très personnel. Et Mercury, d'ailleurs, disait lui-même à l'époque, lorsqu'on l'avait interrogé sur ce morceau, il disait « Si vous écoutez « Living on my own », c'est vraiment moi ». C'est vivre seul, mais c'est aussi le fait de pouvoir s'amuser comme ça. Et puis, il y a ce passage au milieu où je m'amuse à faire du scat. Quand vous pensez à quelqu'un comme moi, avec mon style de vie, je fais le tour du monde, je vis dans des hôtels, cela est peu très très solitaire. Mais attention, je ne veux pas qu'on me prenne en pitié, je dis juste ça. Ça, c'est ma vie. Parfois je me sens très seul, mais j'ai choisi cette vie, et ce morceau en est une illustration.
Et le clip, là où je pense qu'on peut le rappeler aussi, hein, il est également devenu culte.
Ah oui, deux versions d'ailleurs ont été proposées de ce clip, celle de 1985 et celle du remix de 1993 qui utilise des images tournées lors de la fameuse fête d'anniversaire de Freddie pour ses 39 ans. On sait que les fêtes de Freddie étaient toujours extravagantes.
Wow. Hein.
Donc là, c'était une fête donc pour ses 39 ans à Munich, hein, donc sa ville préférée, au club Old Mrs. Anderson, et c'était exactement le 5 septembre 1985. Alors, accrochez-vous, le thème de la soirée, il faut comprendre, hein, c'était une black and white drag ball.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà, une fête drag noir et blanc, déguisement outrancier, ambiance déjantée. La version originale du clip, d'ailleurs, avait été bannie par plusieurs médias à l'époque et n'a été finalement que réhabilitée dans son format complet il y a quelques années à peine.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
good times ahead.
Living on my own, donc à l'instant dans Soundtrack, et puis on s'en souvient, hein, ce morceau a connu une renaissance inattendue quelques années plus tard.
Bah oui, on parlait du clip de 93, et bien en 93, Jim Beach, manager de Queen, décide de faire remixer, et ce sans l'accord de la maison de disques EMI, qui ne croyait pas trop au projet, et résultat, il aura bien fait, puisque ce morceau qui n'avait pas fonctionné dans sa première version, ici va connaître un succès gigantesque, numéro 1 au Royaume-Uni, et ce, 2 ans après la mort de Freddie Mercury, donc c'est un titre, un succès posthume, et c'est aussi, et ça, ça a dû peut-être un petit peu frustrer les autres membres du groupe, c'est la seule chanson solo d'un membre de Queen à avoir atteint la première place en Angleterre.
Ouais, et tant pis pour EMI, j'ai envie de dire. Parlons un petit peu de la matière musicale de l'album. On y retrouve des titres qui sont initialement pensés pour Queen.
Oui, c'est le cas notamment de « There must be more to life than this », que l'on va d'ailleurs écouter dans quelques instants, ou encore de « Man, Man, Paradise », qui avait été finalement rejeté par Queen. Hein. On sait que Freddie compose énormément de choses, donc il y a des choses qu'on garde, des choses qu'on écarte. Mais Freddie va les ressusciter ici. Alors côté style musical, on est dans une ambiance plus dansante que les albums de Queen. Je dirais presque post-disco.
Ouais.
Et il y a toujours cette forme de pop théâtrale qui est aussi celle de Queen à l'époque. Hein, qui est vraiment l'ADN, j'ai envie de dire, de Freddie Mercury, avec cette voix qui est toujours magnifique. Et la guitare, ça va aussi pas trop plaire à Brian May. La guitare sur certains morceaux de cet album évoque le son Brian May. Et pourtant, c'est pas lui qui joue. Donc ça fait grincer quelques dents. Et donc le guitariste qui fait Brian May, si je puis dire ça ainsi, eh bien c'est un certain Paul Vincent, qui ne fera pas une très très grande carrière, mais qui en tout cas assure un très très bon job ici.
Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than living. There must be more than meets the eye. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate, people dying everywhere, and we destroy what we create, people fighting for their human rights, but we just go out saying, c'est la vie. So this is life, there must be more. Be more to life than this. Mm-hmm.
There Must Be More to Life Than This, toujours extrait bien entendu de cet album Mr. Bad Guy dont nous commémorons le 40e anniversaire ce dimanche. Alors pourtant ici, malgré la richesse de la production et le temps alloué à ce projet, l'album, bah, on l'a vu, hein, ne va pas vraiment percer.
Bah non, il faut dire qu'il ne bénéficie pas de ce soutien promotionnel qu'on a expliqué tout à l'heure. Bah voilà, il y a les craintes des autres, mais il y a aussi un autre élément qui fait que bah, ça va peut-être pas marcher, c'est qu'il est très marqué. Peut-être plus que les albums de Queen de l'époque, il est très marqué années 80.
Ah forcément, puisque ça a commencé en 1983.
C'est ça, il est très synthétique. Alors bon, ok, dans les années 80, le son des années 80 doit fonctionner, mais il y a un côté un petit peu peut-être désuet déjà, à ce moment-là, qui fait que tout le monde ne va pas l'apprécier. Il faut aussi signaler que bah, cet album poursuit dans une tendance que Queen avait essayé sur l'album Hot Space, hein, quelques années auparavant. C'était l'album de Queen qui avait un petit côté disco, qui plaisait beaucoup à Freddie Mercury et à John Deacon, mais pas du tout aux deux autres, et qui ne plaisait pas non plus beaucoup aux fans de Queen, hein. Les fans de Queen, ils voulaient quand même du rock, ils voulaient quand même des guitares, etc. Et donc, bah voilà, ça peut expliquer aussi des raisons de ce manque de succès. Et puis, autre élément qui ne plaît pas à tout le monde, il faut le dire, c'est une autre époque aussi.
Voilà.
Voilà, l'aspect coming out, hein, dans un morceau comme Living on My Own, là où, dans les années 70, Freddie Mercury pouvait, on va dire, parler de son homosexualité à demi-mot. Ici, il en parle pleinement, il l'assume complètement, et il la chante, il la célèbre. Et ça, bah voilà, ça ne plaît pas à tout le monde à ce moment-là, notamment dans l'Amérique très conservatrice de l'époque.
Ouais, et comme vous l'aviez dit, c'était une autre époque. Un dernier mot sur l'héritage de cet album.
Ben oui, en fait, c'est un album qui mérite vraiment d'être redécouvert aujourd'hui, avec ben, le recul nécessaire. Alors, il faut signaler aussi qu'en 2019, une nouvelle version remixée est sortie, qui s'appelle Mr. Bad Guy Special Edition, avec un peu moins de réverb, un peu moins de synthé, et un son qui met plus en valeur la voix naturelle de Freddy. Donc, au goût d'aujourd'hui, c'est peut-être intéressant aussi de réécouter cette version-là. Mmh. Et puis, bah, cette réédition, c'est pas un hasard si elle est sortie en 2019, puisqu'elle a suivi l'énorme succès du film Bohemian Rhapsody et qui a permis, bah, voilà, à un public plus jeune de découvrir, bah, l'œuvre de Freddie Mercury autrement.
Voilà, et en parlant du film, j'ai lu il n'y a pas longtemps, hein, c'est vrai qu'on a longtemps évoqué une suite à ce film et qui vient d'être complètement démenti, notamment c'est par ça. L'acteur principal. Mais c'est normal, on ne va pas réécrire l'histoire une fois que voilà, l'histoire est faite.
C'est vrai qu'il y a une deuxième partie de l'histoire après 85, ils auraient pu faire 85-91, mais il est clair que ça va être plus compliqué de tenir une heure et demie sur 5-6 ans, et puis...
Ça aurait pas vraiment été nécessaire, je pense, de montrer le Freddy diminué.
Voilà, c'est certainement. Ou alors, ce serait tombé dans du pathos.
Voilà.
Et clairement, bah voilà, le film a été apprécié en tant que tel, autant peut-être pas, ne pas le... J'ai envie de dire, quelque part, le salir avec une version 2 qui ne serait pas à la hauteur.
Tout à fait. Puis il y a d'autres films à voir au cinéma, de toute façon. Allez, on va terminer cette séquence ici avec quoi ?
Avec la version originale du titre Made in Heaven, hein, donc qui avait été revisité par les membres survivants de Queen en 1995, avec donc l'album du même nom qu'on évoquait. Ici, version originale par Mercury en solo, on était 10 ans plus tôt, donc en 1985.
Merci beaucoup, mon cher Laurent.
Avec plaisir.
Bon dimanche.
hidden in the stars.
Madeleine Evan qui vient clore donc cette séquence consacrée à Freddie Mercury et à l'anniversaire aussi de cet album. Mr. Bad Guy, encore merci à Laurent Riepy.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.